Émile Faguet, l'art de lire. Avant-propos. On lit très peu, disait Voltaire, et parmi ceux qui veulent s'instruire, la plupart lisent très mal. De même, un épigrammatiste inconnu du moins de moi disait au commencement, je crois, du XIXe siècle, « Le sort des hommes est ceci. » Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le sort des livres, le voici, beaucoup d'épelés, peu de lus. Savoir lire, on le sent, est donc un art, et il y a un art de lire. C'est à quoi songeait Sainte-Beuve quand il disait « Le critique n'est qu'un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres. » Mais en quoi cet art consiste-t-il ? Oh, je crois que nous voilà tous embarrassés. Un art se définissait dans le but qu'il se propose. Nous avons sans doute à nous demander pourquoi nous lisons. Est-ce pour nous instruire? Est-ce pour juger les ouvrages? Est-ce pour en jouir? Si c'est pour nous instruire, nous devons lire très lentement, en notant plume en main tout ce que le livre nous apprend, tout ce qu'il contient d'inconnu pour nous. Et puis nous devons relire très lentement tout ce que nous avons écrit. C'est un travail très sérieux, très grave, et où il n'y a aucun plaisir, si ce n'est celui de se sentir plus instruit de moment en moment. Est-ce pour juger des ouvrages? En d'autres termes, est-ce lire en critique? Tout de même, il faudra lire très lentement, en prenant des notes et même en notant sur fiches. Fiches relatives à l'invention, aux idées nouvelles, fiches relatives à la disposition, au plan, à la manière dont l'auteur conduit ses idées ou conduit son récit, ou mêle ses idées à son récit, fiches sur le style, sur la langue, fiches de discussion, enfin, c'est-à-dire sur les idées de l'auteur comparées aux vôtres, sur son goût comparé à celui que vous avez, sur ses idées encore et son goût comparé à ceux de notre génération ou à ceux de la génération dont il est, etc. De toutes ces fiches, vous constituez l'idée générale que vous faites de l'auteur et les idées particulières que vous avez sur lui, et vous n'avez plus qu'à rattacher logiquement ou vraisemblablement ces idées particulières à cette idée générale pour faire, sinon un bon article, du moins un article qui se tienne. Seulement, vous avez appris à votre lecteur à lire en critique et non pas à lire pour jouir de sa lecture. Et peu s'en faut que le mot de Sainte-Beuve ne soit faux. Le critique ne sait pas lire pour son plaisir et n'apprend pas aux autres à lire pour le leur. Il apprend au lecteur à lire en critique. Or, lire en critique n'est pas un plaisir, ou du moins est un plaisir très particulier, mêlé de beaucoup de sécheresse. Sarcèbe disait vers la fin de sa vie, il est vrai, « Oh, comme je suis las de lire les livres pour savoir ce que j'en dirai. Ce n'est plus lire, cela. Ce n'est plus s'abandonner, c'est réagir. C'est lire en soi beaucoup plus que dans l'auteur. » Ah, il avait bien un peu raison. À quoi donc sert le critique? À faire lire l'auteur à un certain point de vue. Son article est une sorte d'introduction à l'auteur dont il s'agit, introduction qui du reste peut être fort utile. Selon que le lecteur a lu déjà ou n'a pas lu l'auteur, le critique l'invite à lire dans telle disposition générale ou à relire ou repenser, selon telle orientation nouvelle. Dans le premier cas, il lui dit « Songez à ceci » et dans le second « Avez-vous songé à ceci ? » Pour parler comme Bonald, qui voyait tout par trois et dans chaque tirade un médiateur, la lecture se compose de trois personnages. L'auteur, le lecteur et le critique et le médiateur. Mais encore une fois, le critique est un homme qui ne sait lire qu'en critique et qui n'apprend à lire qu'en critique, qui n'enseigne que la lecture critique, dont du reste je n'en songe à dire aucun mal. Mais voulez-vous lire seulement pour jouir de vos lectures? Voulez-vous apprendre à lire comme on apprend à jouer du violon, c'est-à-dire pour savoir en jouer et pour prendre le plus grand plaisir possible en le jouant? C'est un tout autre but, c'est un tout autre point de vue, et c'est à cet art seul qu'est consacré le petit livre que je commence. Chapitre 1. Lire lentement. Pour apprendre à lire, il faut d'abord lire très lentement, et ensuite il faut lire très lentement, et toujours jusqu'au dernier livre qui aura l'honneur d'être lu par vous, il faudra lire très lentement. Il faut lire aussi lentement un livre pour en jouir que pour s'instruire par lui ou le critiquer. Flaubert disait « Ah, ces hommes du XVIIIe siècle, comme ils savaient le latin, comme ils lisaient lentement !» Même sans dessein d'écrire soi-même, il faut lire avec lenteur, quoi que ce soit, en se demandant toujours si l'on a bien compris et si l'idée que vous venez de recevoir est bien celle de l'auteur et non la vôtre. Est-ce bien cela, doit être la question continuelle que le lecteur se fait à lui-même. Il y a une manie des philologues qui est un peu divertissante, mais qui part du meilleur sentiment du monde et dont nous devons avoir et conserver comme le principe, comme la racine. Ils se demandent toujours, est-ce bien le texte? N'y a-t-il pas ergo au lieu de ego et extemplo au lieu de extemplo? Cela ferait une différence. Cette manie leur est venue d'une excellente habitude, qui est de lire lentement, qui est de se défier du premier sens qu'ils voient, et qui est de ne pas s'abandonner, qui est de ne pas être paresseux en lisant. On dit que dans le texte de Pascal sur le Ciron, voyant le manuscrit, Cousin lisait « Dans l'enceinte de ce raccourci d'abîme, et il admirait, il y avait dans l'enceinte de ce raccourci d'atome, ce qui a un sens. Cousin, entraîné par son enthousiasme romantique, ne s'était pas demandé si raccourci d'abîme en avait un. Il ne faut pas avoir de paresse en lisant, même lyrique, ni de précipitation. La précipitation n'est d'ailleurs qu'une autre forme de la paresse. Nos pères disaient « lire des doigts ». Cela voulait dire « feuilleter » de telle sorte que tout compte fait, les doigts aient plus de travail que les yeux. Monsieur Bell lisait beaucoup des doigts, c'est-à-dire qu'il parcourait beaucoup plus qu'il ne lisait et qu'il tombait toujours sur l'endroit essentiel et curieux du livre. Mais il ne faut pas penser trop de mal de cette méthode qui est celle des hommes qui sont, comme Bell, des collectionneurs d'idées. Seulement cette méthode ôte tout le plaisir de la lecture et y substitue celui de la chasse. Si vous voulez être un lecteur dilettante et non un chasseur, c'est le contraire même de cette méthode qui doit être la vôtre. Il ne faut pas du tout lire des doigts, ni lire en diagonale, comme on l'a dit aussi d'une manière très pittoresque. Il faut lire avec un esprit très attentif et très défiant de la première impression. Oui, vous me direz qu'il y a des livres qui ne peuvent pas être lus lentement, qui ne supportent pas la lecture lente. Il y en a, en effet, mais ce sont ceux-là qu'il ne faut pas lire du tout. Premier bienfait de la lecture lente, elle fait le départ du premier coup entre le livre à lire et le livre qui n'est fait que pour n'être pas lu. Lire lentement, c'est le premier principe et qui s'applique absolument à toute lecture. C'est l'art de lire comme en essence. Y en a-t-il d'autres? Oui, mais dont aucune ne s'applique à tous les livres indistinctement. En dehors de lire lentement, il n'y a pas un art de lire. Il y a des arts de lire, et très différents selon les différents ouvrages. Ce sont ces arts de lire que nous allons successivement essayer de démêler. Chapitre 2 Les livres d'idées. Il y a des livres d'idées comme le discours sur la méthode, l'esprit des lois, le cours de philosophie positive. Il y a des livres de sentiments comme les confessions et les mémoires d'outre-tombe. Il y a des poèmes dramatiques, il y a des poèmes lyriques. Il est évident que, sauf ce précepte général de lire avec attention et réflexion continuelle, l'art de lire ne peut pas être le même pour ces différents genres d'écrits. Il y a un art de lire pour chacun. L'art de lire les livres d'idées me semble être celui-ci. C'est un art de comparaison et de rapprochement continuel. Matériellement, on lit un livre d'idées autant en tournant les feuillets de gauche à droite qu'en les tournant de droite à gauche. Je veux dire, autant en revenant à ce qu'on a lu qu'en continuant de lire. L'homme à idées étant, plus encore qu'un autre, un homme qui ne peut pas tout dire à la fois, se complète et s'éclaire en avançant, et on ne possède que quand on l'a lu tout entier. Il faut donc, à mesure qu'il se complète et qu'il s'éclaire, tenir compte sans cesse pour comprendre ce qu'on en lit aujourd'hui, de ce qu'on en a lu hier, et pour mieux comprendre ce qu'on en a lu hier, de ce qu'on en lit aujourd'hui. Ainsi se dessinent dans votre esprit les idées les plus générales de votre penseur, celles qu'il a eues avant toutes les autres et dont toutes les autres ont découlé, ou celles qu'il a eues tout à la fin comme conséquence et comme synthèse d'une foule d'idées particulières, ou, plus souvent, celle qu'il a eue au milieu de sa carrière intellectuelle et qui était le résumé d'un grand nombre d'idées particulières et qui, à leur tour, ont produit, ont créé des idées particulières en très grand nombre. Si vous lisez Platon, par exemple, vous croyez bien vous apercevoir que la première idée générale qu'il a eue, c'est l'horreur de la démocratie athénienne qui avait tué Socrate. Vous observez que toute sa politique doit venir de là, et vous êtes amené ainsi à comparer tel ou tel texte des lois à la fameuse prosopopée des lois dans le Criton. Vous vous dites que Platon est avant tout un aristocrate, mais qu'une sorte de respect stoïque et même chevaleresque de la loi est une chose qu'il doit avoir dans le cœur, puisqu'il l'admire si fort dans le cœur des autres. Il serait donc une sorte de républicain aristocrate, républicain c'est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi et voulant que la loi soit plus puissante que tous les hommes, et aristocrate c'est-à-dire ne voulant pas du commandement de la foule. Mais n'y a-t-il pas contradiction et n'est-ce point la foule qui fait la loi ? Non, dans une république aristocratique. Non, surtout si vous observez que Platon parle partout du respect aux lois anciennes, qui ne sont au moment présent l'œuvre ni de la foule ni de l'élite, mais l'œuvre du passé, l'œuvre lente des siècles. Et vous arrivez à cette conclusion, que peut-être Platon est un homme qui veut qu'un peuple soit surtout gouverné par son passé, ce qui est l'essence même de l'aristocratisme. Vous vous trompez peut-être, mais vous avez comparé, rapproché, contrôlé une idée par l'autre, limiter ou rectifier une idée par l'autre, et vous avez goûté le plaisir qui est celui que l'on doit aller chercher chez un penseur, qui est le plaisir de penser. J'ai parlé d'idées générales dont l'auteur est parti et qui ont fait naître des idées particulières. Vous remarquerez toujours que, quand il s'agit d'une idée générale d'où l'auteur est parti, cette idée est un sentiment. Pour Platon, la haine de la démocratie, c'est le culte de Socrate. Mais j'ai parlé d'idées générales où l'auteur est arrivé peu à peu en ramassant un grand nombre d'idées ou d'observations de détails. Platon nous paraîtra avoir procédé ainsi pour arriver à sa théorie des idées. Il est monothéiste, comme plusieurs de ses prédécesseurs en philosophie. Il est monothéiste. Que le monde soit susceptible d'être ramené à une seule loi, c'est une idée qui a commencé à envahir l'esprit humain et à s'imposer à lui. Mais d'autre part, il est trop grec pour ne pas rester un peu polythéiste, pour ne pas croire que des forces multiples et diverses gouvernent le monde et se le disputent. N'est-ce pas pour cela qu'il imagine son monde des idées, vivant dans le sein de Dieu, substance et âme intérieure de toutes les choses qui existent? Qu'est-ce que ceci? C'est un Olympe spirituel substitué à un Olympe matériel. C'est un Olympe d'âme pure substitué à un Olympe de surhomme, à un Olympe anthropomorphique. C'est le livre d'un païen mystique, d'un païen spiritualisé. Alors vous comparez, vous rapprochez, vous vous souvenez que Platon adore les mystiques, les mythes, c'est-à-dire les théories habitées en fables, en manière de poèmes épiques. Et vous vous dites que la rencontre d'un mythologue et d'un spiritualiste a produit cette théorie des idées vivantes, des abstractions qui sont des êtres, des abstractions qui sont des forces, des abstractions qui sont des dieux. Et vous pouvez encore vous tromper, mais vous ne mécontenteriez pas Platon, qui, comme tous les philosophes, écrit moins pour être admiré que pour être compris, et même moins pour être compris que pour faire penser. Vous avez pensé, il a gagné la partie. Et encore, il y a des idées générales qui viennent dans le cerveau du penseur, après toutes les autres, ou bien à peu près. Et celles-ci, idées, filles d'idées, elles n'ont presque plus aucun rapport avec le sentiment. Distinguez-les comme telles et voyez-les comme aussi téméraires qu'elles sont pures et comme aussi aventureuses qu'elles sont abstraites. Qu'est-ce que Dieu pour Platon? Non pas un être qu'on adore par mouvement du cœur et un élan de l'instinct, mais une doctrine que d'autres doctrines ont amené peu à peu à croire vraie. Dieu, pour Platon, est une conclusion. La loi de Platon est une logique. Ce n'est pas chose à lui reprocher. Mais comme cela nous intéresse de comparer cette religion philosophique aux religions où Dieu est sensible au cœur, c'est-à-dire à l'intuition immédiate de tout l'être vivant. Lesquels ont raison? Pour le moment, qu'importe. Pour le moment, je n'apprends qu'à lire. Lire un philosophe, c'est le comparer sans cesse à lui-même. C'est voir ce qui en lui est sentiment, idée sentimentale, idée résultant d'un mélange de sentiments et d'idées, idée idéologique, enfin, c'est-à-dire résultant d'une lente accumulation dans l'esprit du penseur, d'idées pures ou presque pures. Vous lisez Montesquieu, vous apprenez assez vite que cet homme n'a qu'une passion, c'est la haine du despotisme. Ce qu'on déteste le plus au monde, quand on a l'âme active et non pas seulement passive et soumise, c'est ce que l'on a vu autour de soi à 20 ans. Et je ne dis pas que cela soit très bon, je dis seulement qu'il en est ainsi. Montesquieu a vu à 20 ans la fin du règne de Louis XIV. Ce qu'il déteste le plus au monde, c'est le despotisme. Observons-le encore en lisant surtout les lettres persanes. Ce qu'il n'aime pas non plus, c'est la religion catholique. Pourquoi? Mais sans doute parce que la religion catholique a été une très bonne alliée de Louis XIV, surtout dans la dernière partie de son règne, et un bon soutien de son trône. Et que lisons-nous dans l'esprit des lois? Que la religion est une des meilleures choses d'un État bien réglé. Mais quelle est cette contradiction? N'y aurait-il pas là seulement ceci, que nous sommes passés d'une idée de sentiment à une idée de raisonnement? Montesquieu est porté à la haine du despotisme. Il a songé assez naturellement à tout ce qui pouvait l'arrêter, le réfréner, l'endiguer, l'entraver, l'amortir. Et parmi les différentes forces qui pouvaient avoir cet effet, il a rencontré la religion, comme il a rencontré l'aristocratie militaire, comme il a rencontré la magistrature. Dès lors, la religion lui est apparue sous un autre aspect, Et je ne dis pas qu'il ait eu pour elle tendresse d'âme, mais il a eu pour elle tendresse d'esprit. Évolution des idées, se dégageant peu à peu des sentiments dont elles sont parties. Nous rencontrons dans Montesquieu cette grande idée générale, influence des climats sur les tempéraments et sur les mœurs et sur les idées et sur les institutions des peuples. Et nous ne manquons pas d'envisager Montesquieu comme le théoricien matérialiste ou fataliste des législations. Que voyons-nous tout à côté? Cette idée qu'il faut combattre le climat par les mœurs, et les mœurs telles qu'elles sont restées encore sous l'influence du climat, par les lois. Mais cela est-il possible? À quoi croit-il donc? Il est à supposer qu'il croit à deux choses. C'est à savoir à l'empire des choses sur nous et au pouvoir de nous sur les choses. Il croit sans doute, comme a dit Montaigne, que la fatalité nous marche. Il croit sans doute aussi que l'esprit humain peut réagir contre la fatalité. Les climats dont nos mœurs font nos mœurs et nos mœurs font les lois. Oui, mais aussi nos lois font nos mœurs et nos mœurs peuvent combattre le climat. Mais avec quoi ferons-nous des lois contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui pénétraient de nos lois combattront le climat? Avec sans doute la force de notre esprit même. Un fataliste spiritualiste est d'autant plus spiritualiste car il le faut qu'il est plus fataliste, tel est donc Montesquieu. Il paraît bien, du moins le supposait-elle par comparaison que nous aurons faite de lui à lui, nous aurons pensé, nous aurons réfléchi sur ces différentes forces extérieures que nous subissons, intérieures que nous saisissons ou croyons saisir, extérieures que nous sentons, intérieures dont nous prenons conscience, et nous aurons en tout cas élargi le cercle de notre esprit. Nous lisons Descartes. Première impression, quel positiviste! Ne rien croire sur autorité, ne rien croire que sur observation faite par nous, réflexion faite par nous. Et éclairé par quelle lumière? Assuré par quel critérium? Par l'évidence, c'est-à-dire par la nécessité où nous serons de croire à moins de renoncer à notre intellect lui-même. Par la nécessité où nous serons de croire sous peine de suicide intellectuel. C'est le positivisme lui-même. Poursuivez, lisez encore et rapprochez. Mais qui nous assurera que notre évidence n'est pas trompeuse? Rien? Si, Dieu, Dieu qui ne peut pas se tromper ni nous tromper et qui par conséquent nous a donné une évidence qui n'est pas une illusion d'évidence et par laquelle nous sommes donc assurés qu'à croire notre évidence nous ne serons pas illusionnés. Mais reprenons. Dieu qui ne peut pas se tromper, c'est Dieu vérité. Et Dieu qui ne peut pas nous tromper, c'est Dieu bonté. Pour croire à notre évidence, c'est donc à Dieu omniscient et à Dieu providence qu'il faut croire. Et notre condition de connaissance, c'est donc Dieu vérité et Dieu providence. Et cette connaissance dépendant de Dieu providence, ce n'est pas très différent de la vision en Dieu de Malebranche. Ne voir que parce que Dieu permet que nous voyons, c'est voir en Dieu. Voir par Dieu, c'est voir en Dieu. Descartes n'est donc pas un positiviste, c'est un déiste. Et quel déiste? C'est un mystique. Par la comparaison des deux idées principales de Descartes, nous avons retourné Descartes et du père du positivisme moderne. Nous avons fait le tenant le plus radical du déisme et du providentialisme traditionnel. Est-ce là ce qu'il est? Je n'en sais rien. Il est très probable, à mon avis, mais je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que nous avons pensé. Nous avons pensé en nous souvenant à travers les méditations du discours de la méthode et en contrôlant le discours de la méthode par les méditations. Et nous avons fait comme le tour du problème de la connaissance, nous apercevant que notre moyen essentiel de connaître est subordonné à quelque chose que nous ne pouvons pas connaître. Nous apercevant que notre connaissance se résout en foi, soit à elle-même, soit à quelque chose d'inconnaissable. Qu'avons-nous gagné ? De comprendre une intelligence de premier ordre, de comprendre une intelligence supérieure à nous et par conséquent, sans doute, d'avoir développé la nôtre. Nous lisons un simple moraliste, La Rochefoucauld par exemple. Nous nous apercevons qu'il ne croit à aucune vertu. Cela peut nous révolter. Cela peut aussi nous paraître très facile à réfuter par une donnée immédiate de la conscience, par cette affirmation de notre être intime, que si nous sentons en nous bien des vices, nous nous saisissons aussi à tel moment comme capables d'une vertu et comme dans une sorte d'impuissance de ne pas céder à son appel. Voilà qui est bien. Mais à nous de s'en tenir là. Nous sommes encore loin de notre auteur. Nous nous tenons à distance de lui. Nous n'entrons pas dans son intimité. Tant sur le mot, nous ne le lisons pas. Approchons-nous, voyons de plus près. Et que voyons-nous peu à peu? Qu'il y a des nuances, et que très souvent La Rochefoucauld dit « toujours », mais qu'assez souvent aussi il dit « quelquefois », qu'il est beaucoup moins tranchant au fond qu'il ne paraît l'être au premier regard, qu'il ne faut pas le voir comme un bloc. Il y a plus, nous nous apercevrons bientôt, rien qu'en faisant momentanément une petite liste des vertus humaines, qu'il y a des vertus dont il ne parle pas et par conséquent des vertus qu'il ne nie point. Il ne nie point l'amour paternel, l'amour maternel. Et c'est probablement qu'il reconnaît qu'ils existent, et à l'état pur. S'il dit, si l'on croit que c'est par amour pour elle que l'on aime une femme, on est bien trompé. Il ne dit point. Si une mère croit que c'est par amour pour lui qu'elle aime son enfant, elle se trompe. Oh, il n'a pas poussé jusque-là son scepticisme. Son scepticisme a donc des bornes. Eh bien, traçons-les, et en délimitant la pensée de notre auteur, nous l'aurons mieux compris. Nous l'aurons compris. Lire un philosophe, c'est le relire si attentivement qu'on l'analyse. Relisons encore celui-ci. Et apercevons-nous ce qu'il est impossible que nous ne finissions pas par saisir de son procédé. Son procédé, par comparaison d'un nombre suffisant de ses maximes entre elles, nous le surprendrons, et celui-ci, dissoudre en quelque sorte, diluer une vertu qu'il entreprend dans tous les défauts qui l'avoisinent. Le courage, par exemple, dans le désir de briller, la générosité dans l'ostentation, la loyauté dans le désir d'inspirer une confiance dont on retirera des bénéfices, etc. Fort bien. Mais dès lors, si l'on peut dissoudre les vertus dans les défauts qui les avoisinent, on peut aussi dissoudre les défauts dans les vertus qui sont proches d'eux et dire « tel homme désire briller et pour cela se met toujours en avant ». Mais au fond de cela, il y a du courage. Tel homme veut qu'on le sache généreux, mais pour qu'on le sache, il l'est en effet. Il faut bien qu'il le soit, même au fond, pour faire tant de sacrifices, à vouloir qu'on sache qu'il l'est. C'est en somme un assez bon homme. Maître du procédé d'un auteur, vous pouvez toujours le retourner contre lui. Et d'abord, c'est un jeu divertissant, donc une jouissance, mais ce n'est pas seulement un jeu, c'est posséder son auteur jusqu'en son fond, c'est saisir comme sa racine, comme le germe d'où son œuvre est sortie et d'où elle pouvait sortir là même sans doute, mais dans une autre direction. Et c'est en vérité le bien connaître. On ne connaît sans doute quelqu'un que quand on sait ce qu'il est et aussi ce qu'il pouvait être. Revenons encore à monsieur le duc, que voyons-nous qu'il affirme toujours? Que l'égoïsme, l'intérêt, l'amour-propre, comme il dit, est le fond de tous nos sentiments et le mobile de toutes nos actions. Vous réfléchissez là-dessus et vous vous dites, mais plût à Dieu, dire que nous agissons toujours en vue de notre propre intérêt, c'est dire que nous n'agissons jamais par bonté, mais c'est dire aussi que nous n'agissons jamais par méchanceté, que l'homme ne fait jamais le mal pour le plaisir de faire le mal, qu'en un mot, la méchanceté n'existe pas. Mais alors, quelle idée favorable la Rochefoucauld se fait de la nature humaine! Comme il se trompe en sa faveur! Quel optimiste que ce La Rochefoucauld! Comme je me trompais sur ce La Rochefoucauld! Il y a du vrai, beaucoup de vrai. La Rochefoucauld a été sévère pour nous, mais aussi il a été charitable. Notre plus grand défaut, il ne l'a pas vu ou il n'a point voulu le voir. De la part d'un homme si sagace, c'est une merveilleuse indulgence. Soit, mais qu'est-il donc arrivé? Ben, il est arrivé qu'à lire et à relire La Rochefoucauld, La Rochefoucauld s'est transformée sous nos yeux. Nous le voyons tout différent de ce qu'il était. Les sentences se transforment sous la lecture, comme le rayon à travers le prisme. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Et dès lors, où est la vérité? Dans la première impression, ou dans la seconde, ou dans la troisième? Probablement, cette vérité, elle aussi, nous fuit d'une fuite éternelle. Probablement, les auteurs sont inépuisables en raison de ce qu'ils sont et en raison de ce qu'en les lisant, nous mettons en eux. Mais l'essentiel est de penser. Le plaisir que l'on cherche en lisant un philosophe est le plaisir de penser. Et ce plaisir, nous l'aurons goûté en suivant toute la pensée de l'auteur et la nôtre mêlée à la sienne, et la sienne excitant la nôtre, et la nôtre interprétant la sienne, et peut-être les trahissant. Mais il est question ici que de plaisir. Il y a des plaisirs d'infidélité, et l'infidélité à l'égard d'un auteur est un innocent libertinage. Encore, en lisant un philosophe, il faut faire attention à ses contradictions. Les contradictions sont les accidents de paysage d'un grand penseur. On serait désolé qu'il n'en eût point, et que ce paysage fût trop bien composé. Il semblerait alors que son œuvre fût ce tableau dont parlait Musset, où l'on voit qu'un monsieur bien sage s'est appliqué. On n'est point fâché que la liberté d'esprit, que la spontanéité, que le jaillissement intellectuel se marquent à ceci, que le penseur n'a pas toujours pensé la même chose et n'a pas tiré toutes ses idées les unes des autres comme des formules algébriques. La contradiction appelle l'attention, l'excite, la ravive, la transforme en réflexion, la féconde infiniment. Je ne souhaite pas que les auteurs abondent en contradictions, mais je souhaite que les lecteurs sachent en trouver. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, dans tous ses ouvrages, maudit l'influence de la société sur l'individu et souhaite passionnément que l'individu sache s'y soustraire. Et dans un seul, il sacrifie l'individu à la société et souhaite impérieusement qu'elle l'absorbe. C'est une contradiction, sans doute, et pour mon compte, j'en suis persuadé. Les grandes idées générales dérivant toujours des sentiments. Il est probable que Rousseau, dans la plupart de ses écrits, a tiré ses idées de sa passion pour l'indépendance et pour la solitude, et dans un de ses livres de sa passion très honorable pour la République de Genève. Mais en sommes-nous sûrs? Et sommes-nous certains même qu'il y ait contradiction? Je sais des hommes de la plus haute intelligence qui n'en voient point ici et qui rattachent très ingénieusement le contrat social à l'œuvre tout entière, pour eux très une et très cohérente, de Rousseau. Je ne dis point qu'ils aient tort. En fait de contradiction, le premier plaisir du lecteur est d'en trouver, et le second plaisir du lecteur est de les résoudre. Il aiguise son esprit à les trouver, et il l'affine plus encore à les faire disparaître. Il s'exerce à les faire lever. Il s'exerce plus encore à se démontrer à lui-même qu'elles n'existent pas et n'ont jamais existé. Tout cela est bon et tout cela est très agréable. La suite des états d'esprit à cet égard est celui-ci. On commence par ne pas saisir les contradictions en lisant les penseurs. Puis on en relève beaucoup, puis on en aperçoit trop, et dès lors, selon la nature d'esprit que l'on a, on les multiplie avec malignité, et l'on en triomphe, ou l'on s'habitue à les résoudre toutes, et l'on finit par les multiplier pour les résoudre. Il ne faut pencher vers aucun excès, il faut se tenir dans un certain milieu, où le plaisir de comprendre ne soit pas gâté par le plaisir de discuter, ni même par celui de concilier trop. Mais se placer tour à tour aux différents points de vue et dans les différentes attitudes, et tantôt s'abandonner à la force de la pensée et à la rigueur de la logique, tantôt se défendre, ne vouloir pas être dupe, opposer l'auteur à l'auteur pour le battre à l'aide d'un auxiliaire qui est lui-même, tantôt venir à son secours, et démontrer qu'il ne s'est ni trompé ni contredit, et que ce sont des apparences qui sont contre lui, si tant est même qu'il y ait des apparences. Tout cela est comprendre encore. Tout cela n'est que différentes façons de comprendre, et il suffit, pour que toutes soient utiles et fécondes, qu'à toutes ces opérations préside la loyauté, et que jamais le sophisme n'y s'y mêle. Pour résumer, la lecture d'un auteur qui est philosophe est une discussion continuelle avec lui, une discussion où se retrouvent tous les charmes et tous les dangers aussi d'une discussion dans la vie privée. Les charmes, il faut savoir les goûter, il faut savoir écouter longtemps, il faut savoir suivre le penseur dans tous les détours et même dans toutes les hésitations de sa pensée. Il faut sentir l'objection se lever doucement dans notre esprit, mais la prier de ne pas éclater et d'attendre le moment où peut-être l'auteur cela sera fait lui-même, et le plaisir est très vif alors. Car d'abord nous sommes sûrs d'être bien en commerce intellectuel avec l'auteur, puisque nous l'avons prévenu, c'est-à-dire compris d'avance, et ensuite nous nous disons avec satisfaction que nous ne sommes pas nullement inférieurs à lui, puisque l'objection qu'il s'est faite, nous la lui faisions, c'est-à-dire puisque nous circulions dans sa pensée presque aussi largement, presque aussi aisément que lui-même. Et les dangers de la discussion, il faut savoir les éviter comme dans une discussion privée. Il ne faut point nous obstiner dans notre sentiment parce qu'il est notre sentiment, et parce que nous avons trouvé contre un raisonnement un peu faible de l'auteur, un raisonnement assez fort, croire toujours avoir raison contre lui. Cela nous mènerait assez vite à une étroitesse d'esprit, à une sorte d'irréceptivité, si je puis dire ainsi, en vérité, à une intelligence acquise qui serait certainement le plus fâcheux des acquisitions. Certaines préférences à rebours sont à noter. Tel auteur est préféré par un lecteur, non pas parce que ce lecteur lui trouve l'esprit juste, mais parce qu'il lui trouve l'esprit faux, ce qui donne à ce lecteur le plaisir d'avoir toujours raison, ou de croire avoir toujours raison contre lui, par suite de quoi c'est à cet auteur que ce lecteur revient constamment. En entrant dans sa bibliothèque, ce lecteur-là va tout droit à cet auteur-là, et s'assied en se disant, de façon plus ou moins consciente, « Comme je vais avoir raison !» Comme je vais avoir l'esprit juste, je conseillerais un peu à ce lecteur de changer l'auteur favori. J'ai connu deux hommes qui ne conversaient jamais que de Proudhon. L'un ne jurait que par lui, l'autre allait souvent jusqu'à jurer contre lui. Je n'ai jamais su lequel aimait le plus Proudhon, de celui qui voyait une source inépuisable de vérité, ou de celui qui voyait un océan de sophisme. L'un l'aimait comme un père spirituel, à qui il devait reconnaissance du don de la vie, l'autre l'aimait comme un homme à qui il devait le savoir très complètement sa supériorité intellectuelle. L'un l'aimait avec dévotion, l'autre avec égoïsme. L'un l'aimait de tout l'amour que l'on a pour l'être d'élection, l'autre de tout l'amour que l'on peut avoir pour soi-même. Et l'un était fier de se dire que s'il rencontrait Proudhon, il le réfuterait et le confondrait assurément, et l'autre de se dire que s'il rencontrait Proudhon, il l'expliquerait à lui-même avec une clarté définitive. Et ils s'aimaient réciproquement, du reste. L'un était heureux des occasions que lui donnait l'autre d'exposer la doctrine de son maître et de s'en pénétrer à nouveau, et l'autre était heureux des occasions que lui donnait le premier de discuter comme avec Proudhon lui-même et de le terrasser par procuration. Fortunati ambo, heureux tous les deux. Je crois pourtant que c'est à distance égale ou à peu près de ces deux heureux qu'il faut être, et tâcher de se maintenir pour garder cette liberté d'esprit qui est le bonheur intellectuel véritable. En chose intellectuelle, il ne faut ni abdication ni triomphe. L'abdication est toujours un peu déprimante et le triomphe est toujours vain. Se sentir en face d'un penseur, toujours en lutte courtoise et bienveillante, sentir qu'il a raison et n'en convenir qu'à la dernière extrémité, mais en convenir franchement, sentir qu'il a tort et se savoir gré de le sentir, mais à la dernière extrémité encore, et en se disant toujours que s'il était là, il ne nous laisserait pas, peut-être pas en pleine sécurité de victoire, aurait sans doute quelque redoutable retour offensif. Lui prêter, même en les tirant de lui ou de vous, quelque argument de réserve à vous réduire ou à vous embarrasser, voilà l'exercice qui constituera pour vous une bonne hygiène intellectuelle. Avec les philosophes, la lecture est une escrime, où quelques précautions prises que nous avons indiquées, l'esprit prend incessamment des forces nouvelles qui peuvent être utiles de toutes sortes de façons et qui, par elles-mêmes et pour le seul plaisir de les posséder, valent qu'on les possède.